R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour, merci d'abord aux organisateurs de cette magnifique conférence, colloque qui se déroule ces deux jours. Merci à mon ami Marco, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. Et merci à vous tous d'être présents pour m'écouter. C'est toujours agréable d'être écouté. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que je mène avec une collègue, Émilie Ramilien, et d'autres personnes en Bolivie, d'autres collègues qui sont en Bolivie, et qui s'intitule « Hypersujet et Anthropocène ». La Pachamama entre sujet de droit et hypersujet du droit. Et ce que je propose de faire, c'est une analyse du droit des entités de nature en Bolivie et en Équateur, dans la perspective des travaux d'Elisabeth Povinelli, notamment sur deux concepts qu'elle a défendus ces dernières années, sur d'abord le concept de géontologie et le concept de géontopouvoir. Avec en ligne de mire un peu cette double problématique que j'ai mis ici au tableau. Est-ce que le droit, le droit qui est un outil moderne, contemporain, permet-il d'activer ou d'actualiser du vivant face au géontopower? Finalement, est-ce que dans cette fameuse partition que Elisabeth a proposée entre le vivant et le life et le non-life, on va dire, il y a quelque chose qui peut se jouer auprès du droit. Et finalement, est-ce que le droit ne serait-il pas une faille géontologique, une faille dans le système géontologique ou une faille dans le système du géontopower qui pourrait être profitable pour pouvoir ériger des limites, effectivement, comme Valérie a commencé à le dessiner, face à l'extractivisme, face à la colonisation, ou face à ce que l'on appelle aujourd'hui l'emballement climatique ou l'anthropocène, d'une certaine manière. Donc c'est à cette double problématique que je vais essayer de répondre. Et pour répondre à cette double problématique, je propose d'illustrer et de mettre en tension deux expérimentations qui ont été évoquées par Valérie tout à l'heure. Une expérimentation qui a eu lieu en Bolivie à partir de l'Assemblée constituante, qui a fait émerger des négociations entre collectifs différents, avec des visions du monde extrêmement différentes, une entité qui s'appelle donc la Pachamama, la terre-mère sacrée. Et de l'autre côté, les expérimentations plus ancrées sur une philosophie particulière du droit qui est issue notamment d'un courant qui mélange effectivement la deep ecology et l'éthique environnementale et qu'on pourra résumer par le courant des rights of nature et qui effectivement a été très bien présenté tout à l'heure par Valérie. Et donc, en mettant à distance ces deux expérimentations, je pense qu'on peut répondre d'une manière, en tout cas provisoire, mais il y a un début de réponse à cette question-là. Est-ce que le droit permet-il d'activer ou de déplacer cette frontière entre le life et le non-life dans le géontopower? Alors, pour cela, je vais faire un petit retour sur ce que je propose d'appeler l'animisme juridique à la suite des travaux de Marie-Angèle Hermite. Et pour reprendre cette idée d'animisme juridique, alors ce qui est intéressant là encore une fois, c'est que cette notion d'animisme, elle est doublement intéressante aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, parce qu'il fait référence à une conception du monde et de la personne qui est issue des cosmologies autochtones dans les pays andins. Mais c'est aussi un terme qui est exploré par Elisabeth dans ses travaux. Et enfin, c'est également quelque chose qui reconfigure aujourd'hui, qui revitalise la notion de personne grâce à des mobilisations intellectuelles et activistes, on va dire, dont Valérie est une des porte-paroles aujourd'hui absolument essentielle, quoi. En règle générale, l'animisme juridique cherche à questionner la partition classique du droit entre les personnes et les choses et suggère un certain nombre de nouvelles modélisations ou fictions juridiques permettant à diverses entités, notamment non humaines, arbres, forêts, animaux, rivières, montagnes, écosystèmes, toute une série d'entités que Valérie l'a aussi a exposé il y a quelques minutes, d'acquérir une personnalité juridique. Les analyses juridiques qui sont faites de ces processus insistent souvent sur l'idée que le droit contemporain est l'héritier d'une vision anthropocentrée qui fait de l'être humain le centre organisateur des densités ontologiques. Et d'ailleurs, le droit, originairement, beaucoup de théoriciens du droit conçoivent qu'au fondement de l'analyse juridique, il y a cette partition entre personne et chose qui rappelle étrangement cette idée, là aussi, de passivité ou d'activité, ou en tout cas de non-existence et existence, ou de life et non-life, dans les travaux d'Elisabeth. Mais ça, c'est juste une convergence de formes qu'on va essayer d'explorer un petit peu plus tard. Alors, la convergence qui est proposée par l'animisme juridique, c'est faire l'hypothèse que les opérations du droit et les opérations de l'animisme peuvent se rejoindre à un moment donné. Du côté de l'animisme, donc qui fait que, grosso modo, là aussi, je parle sous le contrôle de Barbara et de plusieurs anthropologues qui ont étudié cette question-là. Là, je vais être un petit peu généraliste, trop généraliste. L'animisme comporte une conception élargie et désanthropisée de la notion de personne. Et la notion de personne, justement, est un concept fondamental dans le droit. Car au centre, justement, de la partition entre personne et chose, et au cœur même de ce que Alain Supiot qualifie de fondement juridique de la personne. Le droit, de son côté, par le truchement de ce que Yann Thomas et autres ont appelé les opérations du droit, les artifices du droit ou encore les fictions qu'ils génèrent, offrent une ouverture créative pour instaurer, au sens de Souriau, pour installer, instituer des êtres, des sujets de droit ou encore édifier des institutions. Donc il y a une potentialité ontologique qui est inhérente au droit. Et comme l'a dit dans sa conclusion Valérie, le droit a la possibilité de s'extraire d'une réalité objective en devenant potentiellement un autre monde, comme l'a défendu Hermite en 99. Il assure alors une certaine flexibilité philosophique, instaurant, au sens de Souriau, des entités pour lesquelles une réalité physique, une quelconque véracité, tangibilité, matérialité, où des faits réels n'est pas forcément nécessaire. Yann Thomas écrit à ce propos que la fiction requiert avant tout la certitude du faux. Donc le droit offre quelque chose quand même d'assez intéressant. On croit que le droit est une opération assez matérialisante parce qu'elle symbolise, elle incarne la contrainte, elle incarne quelque chose de mise en ordre physique du monde, mise en ordre matériel du monde. Mais la philosophie du droit, grâce à cette partition entre personne et chose, est une philosophie qui comporte une redistribution des densités ontologiques. Et c'est l'hypothèse que fait l'animisme juridique, c'est que du coup, le droit peut être adapté à accueillir des entités aussi diverses que des entités qui ne sont pas encore là, comme l'a dit Valérie, des entités qui sont pas des personnes au sens classique de la civilisation occidentale, etc. Et donc, l'argument qui est donné par l'animisme juridique, c'est que si les sociétés occidentales ont su donner une personnalité juridique à des entités qui n'étaient pourtant pas considérées à certains moments comme des personnes au sens strict, donc le cas le plus exemplaire, ce sont les entreprises, par exemple, les organisations, mais les enfants aussi et d'autres entités, rien n'empêcherait une redistribution plus large de ce type de qualité à d'autres entités. Donc ça, c'est vraiment au cœur notamment de la démonstration de Christopher Stone dans son fameux article de 1972 que là aussi Valérie a évoqué. Alors, commençons justement à reproblématiser cette question du est-ce que le droit permet-il de tenir ses promesses de mécanisme occidental capable d'accueillir des visions du monde alternatives et en tout cas des visions du monde qui permettent de prendre en considération la question de la fin du monde, de l'anthropocène ou du géantopower. Pour répondre à ces questions, donc comme je l'ai dit, on va mettre en tension les courants des Rights of Nature qui ont beaucoup influencé l'Assemblée constituante équatorienne et de l'autre côté le pachamamisme ou en tout cas l'érection de cette figure divine en Bolivie. Alors du côté équatorien, ce que je propose est de dire que l'esprit du droit de la nature équatorien est orienté par des impératifs ontologiques précis. Faire de chaque entité de la nature une entité redignifiée, atomisée, avec une vraie matérialité, là aussi, dans le droit, et bien sûr ayant la capacité d'être sujet de droit. Mais le droit de la nature équatorien est guidé également par un impératif d'efficacité dans la mise en place de procédures juridiques. Porte-parole, possibilité d'un procès, technique de représentation, rôle du juge, mécanisme de déclenchement d'une procédure juridique, etc., etc. Donc en synthèse, je vais pas, j'ai pas le temps de revenir sur les éléments ponctuels de cela, mais j'ai plusieurs publications là-dessus. Je vous demande de me faire confiance sur ce point-là. En synthèse, il a été pensé pour être opérationnel au sein des architectures institutionnelles modernes, tout en rentrant en résonance avec les attachements cosmologiques en présence, et notamment les attachements cosmologiques autochtones en Équateur. L'élément le plus saillant en termes d'opérationnalité technique du droit équatorien est lié à la possibilité du procès, comme nous l'avons démontré avec Émilie, justement, dans un travail récent. À propos notamment d'une ethnographie que nous avons réalisée lors du premier procès d'une rivière, la rivière Vilcabamba, face à la municipalité de Loja. Validant l'intuition de Marie-Angèle Hermite, nous avons en effet pu apercevoir que le droit de la nature équatorien, et malgré les difficultés à faire aboutir les conséquences d'un procès de ce type, en faisant de la nature une personne, plus qu'un geste d'ouverture ontologique ou d'ouverture à l'animisme, d'ouverture aux peuples autochtones, à leurs attachements, etc., obliger les entités à pouvoir s'opposer et se répondre dans une sphère délimitée dans le temps et dans l'espace. Cette mise en équité, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui est à la fois symboliquement puissant, dans cette idée, bien sûr, d'une réponse à la déconnexion structurelle du monde occidental entre nos modes de vie et la nature, bien sûr. C'est comme si, finalement, le théâtre juridique nous obligeait à être face à la nature, à nous obliger à être contraints de s'opposer à la nature, finalement. Cette équité dans le placement des entités humaines et non humaines, dans les atmosphères d'un tribunal, affirme une certaine opposabilité des entités non humaines au collectif humain extractiviste, le tout devant un juge qui, du coup, a une position essentiel et qui doit alors prendre en considération et traduire en action de nouvelles valeurs et de nouvelles philosophies de la personne. Et le cas de ce procès est exemplaire parce que justement le juge devient un passeur, on va dire, entre ce qui est passif et ce qui est actif et celui qui va redistribuer en fait les forces et les densités ontologiques d'un collectif, on va dire, et d'une société. Je passe maintenant à l'exemple bolivien qui est absolument différent, malgré effectivement certaines conceptions un peu médiatiques qui ont tendance un peu à englober ces expériences-là en les folklorisant. La Pachamama et une entité qui s'est érigée grâce à l'Assemblée constituante en Bolivie. Et nous l'avons assimilée avec Émilie, ma collègue avec qui on a fait cette ethnographie de l'Assemblée constituante. Nous l'avons qualifiée d'hyper-sujet. Et ça rejoint l'idée que Bruno Latour à une époque avait de dire d'expliquer qu'aujourd'hui il était important de designer des nouveaux cosmocolosses. Et c'est un peu ce que les collectifs décentralisés en Bolivie ont essayé de réaliser. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu comment s'est passée cette assemblée constituante en Bolivie. Grosso modo, l'organisation de l'Assemblée constituante en Bolivie s'est faite sur la base de une représentation non pas de partis, mais essentiellement de communautés autochtones venant de différents endroits de la Bolivie. D'un côté, il y avait les animistes, les communautés animistes, les représentants et les constituants animistes venant des forêts amazoniennes, des bassins amazoniens. De l'autre côté, les communautés qu'on pourrait qualifier de naturalistes, donc à la suite des travaux notamment de Philippe Descola, donc ce sont essentiellement des constituants modernes qui se sont formés beaucoup dans des universités européennes, qui ont une vision du droit constitutionnel assez spécifique, et enfin des communautés analogistes, des constituants analogistes, qui viennent des hauts plateaux andins et qui ont une vision du monde assez spécifique. Et là, je renvoie aux travaux de Philippe Descola. Donc, bien sûr, les constituants qui étaient présents dans cette assemblée ne se déclaraient pas « Je suis animiste, coucou, bonjour, je suis analogiste, moi, je suis naturaliste. » Ça, c'est une manière de représenter les résultats pour dialoguer avec ce que le tournant ontologique en anthropologie avait proposé à une époque. Donc c'est pas la réalité du terrain. Mais malgré tout, ces trois catégories nous permettent de bien comprendre comment la Pachamama s'est érigée. Alors, dans la vision occidentale, la Pachamama est tout simplement la déesse autochtone, traditionnelle des communautés indigènes, notamment des hauts plateaux andins. Et cette figure-là, pour les observateurs de l'Assemblée constituante, a tout simplement été revitalisée par l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que beaucoup, l'erreur qui est faite aujourd'hui quand on analyse ce processus constitutionnel, c'est de dire que, étant donné que les communautés indigènes avaient des croyances en la Pachamama, bah, tout simplement la Pachamama s'est retrouvée, d'accord, dans les textes constitutionnels. Nous, ce qu'on a observé, c'est quelque chose de complètement différent. C'est qu'au départ, il n'y avait pas de Pachamama dans les négociations entre constituants. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un premier conflit ontologique qui s'est opéré sur la question de la réalité objective. Il y a eu tout un débat là-dessus extrêmement important, où les animistes, justement, ont commencé à proposer des incursions, disant, mais pourquoi on ne donnerait pas dans la nouvelle constitution politique des droits à des entités que nous, on a soin de qualifier comme personnes ou comme sujets, etc. Et bien sûr, les naturalistes se sont énervés d'une manière assez impressionnante. Et nous avons récolté énormément de verbatim de constituants nationalistes, d'universitaires formés à la Sorbonne et de marxistes qui disaient, mais attendez, ce que vous nous dites là, c'est contraire à la réalité objective. La réalité objective, c'est ça. C'est que les humains sont des humains, ce sont des personnes, et la nature, c'est la nature, c'est autre chose. On peut vouloir la protéger, tout cela, mais ce n'est pas la même chose. Elles sont pas, et voilà, il y a une réalité objective, un plan de la réalité qui ne peut pas être négocié et sur lequel on doit tous se mettre d'accord. Alors bien sûr, les animistes ont tout de suite expliqué que selon eux, cette réalité n'était pas valable, bien sûr. Et les analogistes, quant à eux, ont expliqué que la Pachamama, justement, était une entité qui permettait d'englober un certain nombre de choses, un certain nombre d'entités, personnes humaines et non humaines, et la Pachamama pouvait servir de dépassement de ce conflit entre animistes et naturalistes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les trois plateaux de vision du monde animiste, analogiste et naturaliste se sont mis à tourner, en fait, pour converger sur ce qu'on a appelé, nous, des diplomaties ontologiques. Le plateau animiste avait un intérêt fondamental à ce que la nouvelle constitution politique puisse reconnaître des entités de la nature comme des sujets, et comme des sujets politiques et des sujets de droit. Donc animaux, forêts, entités spirituelles, etc., etc. Le plateau analogiste avait tout intérêt à défendre l'idée d'une Pachamama, une entité sacrée, divine, qui traverse toute la cosmologie des peuples autochtones des plateaux andins. Et le plateau naturaliste, la vision du monde naturaliste, qui à l'époque était composée essentiellement, comme je le disais, de constituants fondamentalement opposé au néolibéralisme qui avait fait des ravages en Bolivie. Et ce plateau naturaliste avait des intérêts à ce que la nouvelle constitution politique puisse défendre une non-aliénabilité, une non-appropriation de certaines ressources naturelles, de certains territoires, etc. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la Pachamama a permis, d'une certaine manière, de faire converger ces versions du monde radicalement différentes, où nous, on a vu les gens s'étriper sur le statut du lama, du lac ou de la montagne, d'accord, avec une violence fulgurante. Et la Pachamama, finalement, était une sorte de dieu qui s'est inventé, qu'on a inventé, donc ce n'est pas une déesse qu'on a importée de manière classique, mais c'est une invention, comme Albert Piette les a étudiés, la religion, le sacré comme invention, je pense qu'on le retrouve ici clairement. Et c'est cette Pachamama qu'on a qualifiée hyper sujet, c'est-à-dire un événement assez fragile, mais c'est un événement de diplomatie ontologique. Ce qui est intéressant là aussi, mais je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, c'est que, par exemple, les constituantes féministes urbaines, elles aussi ont convergé sur la Pachamama parce qu'elles considéraient que la Pachamama, par exemple, permettait d'instaurer et de structurellement poser une entité sacrée mais féminine comme, là aussi, un repère fondamental de la vie sociale, politique et constitutionnelle du pays. On le voit ici, les animistes avaient une nature avec des sujets sacrés à protéger, les analogistes une Pachamama comme source de richesse, de fertilité, comme entité sacrée, les naturalistes des ressources naturelles à exploiter et une application du droit pour la protéger, et la Pachamama, c'est ce petit fragile dieu qui permet de tenir provisoirement et fragilement différentes visions du monde. Donc cet hyper sujet, pour revenir à des considérations un petit peu plus théoriques, est une entité négative au sens où les gens ne sont pas obligés de s'accorder sur les substances d'un dieu, mais plutôt sur les attributs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant en termes de diplomatie, justement. C'est une entité sphérologique, immunologique, pour reprendre les idées que Sloterdijk avait proposées à un moment donné. C'est le fameux « Protect Us » de Isabelle Stengers. C'est un sujet événementiel qui a une productivité politique et une efficacité non pas technique comme dans le droit équatorien, mais une efficacité symbolique et politique forte. C'est une entité à la fois locale et non locale. C'est une entité, bien sûr, perspectiviste parce qu'elle permet de prendre en compte les perspectives du monde radicalement différentes et essentiellement, fondamentalement contradictoire. Cela rappelle également l'empty signifier de la CLAW, c'est-à-dire on n'a pas besoin fondamentalement de s'accorder sur tout lorsqu'on érige un dieu, lorsqu'on invente un dieu. Mais on est obligé au moins de se mettre d'accord sur nos ennemis respectifs finalement. Je vais lire un petit paragraphe là-dessus tout à l'heure. La Pachamama ouvre la voie également des éléments de non-appropriabilité, d'une conflictualité assez assumée, mais aussi fait référence aux travaux de ces dernières années sur l'incommun, qui dépasse l'idée de commun, et qui est en fait finalement une sorte de retour de boomerang de cette relation life et non-life, en considérant que, pour le coup, l'incommun peut-être institué aussi, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument inaliénable et absolument mis hors marché, mis hors extractivisme, etc., même sous une forme de propriété collective ou propriété communautaire. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entité non totalisable et mutante. C'est un indigénisme du futur, un indigénisme qui n'est pas enfermé dans des versions folkloriques, mais c'est un animisme qui est plutôt, on va dire, inventif et créatif. Alors, je voudrais juste vous conclure cela par ce petit paragraphe. L'opérationnalité technique juridique faisant cruellement défaut à la figure de la Pachamama, contrairement à l'animisme juridique équatorien, il est parfaitement logique qu'on puisse s'interroger sur sa capacité à concrètement agir dans l'Anthropocène. D'ailleurs, même en Bolivie, la Pachamama n'a pas de tangibilité concrète. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de processus légaux qui se sont faits au nom de la Pachamama, etc. Par contre, si Evo Morales risque de perdre les prochaines élections, c'est à cause du fait qu'il a trahi la Pachamama, d'une certaine manière. Moi, c'est l'observation que je fais. Donc cet hyper-sujet fonctionne comme un dieu, même capable de décapiter les traîtres qui ont aidé à la composer à une époque. Sachant que l'Assemblée constituante n'a pas été le théâtre d'Evo Morales, pas du tout, justement. Ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. La Pachamama, contrairement aux entités dignifiées par la Constitution équatorienne, est une entité collective, diplomatique, enveloppante et qui a plus à voir avec l'idée d'un événement cosmopolitique que d'une divinité aux contours bien définis. Cependant, par son rattachement à l'idée de terre et de territoire, elle ouvre la voie à de nouvelles configurations du droit, où les territoires pourraient devenir le socle ontologique de référence du droit. On ne s'attacherait plus à défendre telle ou telle entité atomisée dans un vaste répertoire extensible à l'infini de sujets de droit, qui est un peu la tendance parfois excessive de certains avocats des rights of nature. Je ne parle pas pour Valérie, bien sûr. Mais un territoire compris dans toute sa densité cosmopolitique. Terre nourricière, territoire à défendre, coalition d'entités humaines et non humaines, espace inaliénable et hors marché, incommun, etc. Cela oblige cependant, et je vais conclure par cela, les collectifs qui entrent en Anthropocène à un certain nombre de renoncements. Renoncer à un principe organisateur commun prédéfini, à un universel préétabli qu'il suffirait d'exporter ou d'expliquer, même si au final, comme pour le cas de la Pachamama, il ne s'agit pas de rester dans un relativisme des visions du monde, mais bien dans un travail constitutionnel qui mène à un universel, mais qui se bâtit, d'accord ? À bâtir des mondes communs sur à bâtir des mondes communs sur la base d'horizons positifs. Donc il faut plutôt se mettre d'accord sur des éléments négatifs. Renoncer à penser nos attachements sur le mode de la substance, mais plutôt sur des attributs. Et bien sûr, renoncer à penser le sacré comme un tabou incompatible avec nos institutions modernes. Un sacré cosmopolitique, inventif finalement, en somme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.